Bonsoir, comment allez-vous? Le premier livre de Carson McCullers, Le cœur est un chasseur solitaire, que je ne vous recommande pas vraiment parce que trop triste, a cependant la qualité de nous montrer une certaine vie dans le sud des États-Unis, une vie de misère. Nous sommes au début du XXe siècle et elle raconte que sur les routes circulent des charrettes tirées par un âne, doublées par de puissantes voitures à moteur. On peut sûrement encore voir ça de nos jours, mais c'est rare. Car bien sûr, les voitures à moteur ont largement pris le dessus. J'imagine les conversations entre les ânes. Figure-toi qu'aujourd'hui, nous nous sommes fait doubler par une voiture au triple galop tirée par personne. Bah alors pourquoi dis-tu triple galop si personne ne galopait? Parce qu'elle allait vite, si vite. Il devait bien y avoir des chevaux quelque part. Eh bien, à l'intérieur de la voiture, puisqu'il n'était pas à l'extérieur. Elle était grande comment, cette voiture? Bon, comme une charrette, à peu près. Mais enfin, où as-tu vu qu'on pouvait mettre des chevaux à l'intérieur d'une charrette? Foi d'âne, je l'ai vu. Oh, on t'avait mis des œillères. Eh, dis donc, je n'ai jamais porté d'œillères, je ne suis pas un poltron de cheval, moi, je suis un âne, je passe partout. Mon ami, tu es certes un âne courageux et résistant, je te l'accorde, mais le soleil t'aura brouillé l'esprit, parce qu'une voiture qui galope sans galopeur, ça n'existe pas. Dans le roman de Carson McCullers, l'âne porte un chapeau de soleil, justement. Peut-être pour éviter ce genre d'hallucination.
Bonjour, je m'appelle Raphaël et j'ai 6 ans et je voudrais savoir si un jour on aura des voitures volantes.
Bonjour, je m'appelle Stanislas et j'aimerais bien, j'ai 8 ans et j'aimerais bien savoir comment est-ce que dans le futur il y aura des voitures volantes. Merci.
Des voitures volantes, Raphaël et Stanislas se posent la question. François Sillion, vous êtes dans le, je ne sais pas si vous êtes dans les voitures volantes, mais vous êtes dans l'espace quand même, puisque vous êtes directeur technique et numérique du Centre national d'études spatiales. Cette histoire qui nous a fait rêver, mais déjà dans ma génération.
Bien, la réponse très courte, ce serait qu'aujourd'hui, il existe des voitures volantes. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Mais on a déjà vu des prototypes, donc des ingénieurs qui ont construit des véhicules qui peuvent à la fois rouler et puis décoller, voler et atterrir. Alors, on ne les voit pas aujourd'hui sur les routes. D'abord, on n'aurait pas le droit et ensuite, c'est très cher et très compliqué à construire.
Mais oui. François Sillion, décoller comme un hélicoptère? Comme ça, à la verticale?
Alors, aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est plutôt, il y a notamment un prototype qui a été montré récemment par des ingénieurs allemands, qui est extraordinaire. Ça ressemble à une voiture. Et en fait, la voiture, quand elle arrive sur un aérodrome avec une piste, va déployer des ailes qui vont sortir de la voiture et à ce moment-là pouvoir décoller comme un avion, donc pas comme un hélicoptère. Le problème, c'est que c'est un rêve d'ingénieur. C'est-à-dire que je pense que vraiment, c'est passionnant à construire. C'est un très bel objet. Par contre, le problème de ce concept-là, c'est qu'il n'y a plus de place dans la voiture. Il y a les ailes qui sont repliées, vous avez donc un pilote et vous n'avez même pas la place de mettre une petite valise ou un sac. Donc, c'est plutôt une démonstration du fait que c'est techniquement possible. Après, ce qui est peut-être plus intéressant, c'est de se dire, est-ce qu'on va pouvoir concevoir des voitures volantes un petit peu pour monsieur tout le monde, c'est-à-dire qui vont être utilisées par tout un chacun. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment un sujet très actif et je pense que cela va arriver. Et en particulier, c'est possible parce que on va pouvoir développer des voitures électriques auxquelles on va donner la capacité effectivement de décoller ou d'atterrir comme un hélicoptère de façon verticale. C'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin d'une piste d'atterrissage, on pourra, comme un hélicoptère avec des petits rotors, des petites hélices, un peu comme un drone, on pourra décoller et atterrir verticalement. Et donc ça rend déjà les choses plus faciles puisqu'on n'a pas besoin de rouler jusqu'à un aérodrome puis de décoller.
Bah, c'est-à-dire que la voiture volante actuelle des ingénieurs allemands, c'est un petit peu James Bond. Et celle qui décolle à la verticale, c'est juste le Parisien qui est bloqué dans les embouteillages. ce ne sont pas les mêmes applications.
Oui, mais alors, on pourrait dire c'est le Parisien bloqué dans les embouteillages ou la personne très riche qui va pouvoir s'offrir un bijou technologique mais qui finalement ne sera pas utilisable par tout le monde. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on voit se développer des projets d'utilisation de ces véhicules volants. Alors, pas vraiment comme des voitures individuelles, mais plutôt comme un service qui permet de relier des points qui sont peut-être mal desservis par les transports en commun ou entre lesquels il n'y a pas une route, par exemple, pour aller sur une île. Ça peut être extrêmement pratique. Ou simplement, si on prend l'exemple d'un réseau de transport autour d'une ville, comme Paris, le réseau, il est malheureusement plutôt en étoile, donc c'est facile d'aller de Paris vers la grande banlieue, et on sait que c'est difficile d'aller d'une grande banlieue à une autre. Si on pouvait fournir un service aérien, finalement, dans ces cas-là, ce serait la meilleure utilisation, à mon avis, de ces véhicules volants.
Pour Stéphane Combe, pilote. Qui pilotera la voiture volante ?
Bien, à terme, on pourrait imaginer que ces voitures soient autonomes, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas besoin d'un pilote, comme on commence aujourd'hui à voir des voitures sur la route qui pourraient avoir un degré d'autonomie. Alors c'est un petit peu plus compliqué pour un objet qui vole, parce que une voiture qui roule sur la route et qui rencontre un problème, elle peut toujours dire « Ok, j'arrête d'accélérer, je me gare sur le bas-côté ». Quand on est en l'air, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on ne peut pas atterrir n'importe où et on ne peut pas atterrir en ayant coupé le moteur, par exemple. Donc il faudra, au moins au début, des pilotes.
Ah oui, j'avais pas pensé à ça. On peut pas se garer sur le côté quand on vole. François Sillon, chercheur en informatique, mathématiques appliquées et intelligence artificielle, a travaillé sur la voiture volante. Et dans le Science et Vie Junior de ce mois de décembre, eh bien, vous avez une page qui propose un petit dossier sur le bus volant. Peut-on faire voler un bus comme dans Fortnite? Eh bien, pour le moment, non. Mais on y travaille. Mais dans Science et Vie, on en explique un petit peu plus. Ce soir, dans les petits bateaux, vous avez demandé comment font les sumos pour être aussi gros, si un somnambule est conscient, et pourquoi en montagne, plus on monte, plus on se rapproche du soleil, et plus il fait froid. Ces questions ont été posées au 01 56 40 43 57.
Alors bonjour, je m'appelle Betty, j'ai 10 ans, et je voudrais savoir pourquoi le poil à gratter gratte. Merci.
Alors c'est Catherine Laine qui est enseignante-chercheure en physiologie végétale à l'université Blaise Pascal à Clermont-Ferrand qui va te répondre. Pourquoi le poil à gratter gratte, demande Betty ?
Alors le poil à gratter gratte, effectivement, on en a souvent fait l'expérience quand on était plus jeune. Alors on va simplement se demander d'où il vient ce poil à gratter. Donc en fait, il vient d'une structure végétale, d'un fruit, le fruit de l'églantier, qui est une sorte de rosier, le rosier sauvage. Ce fruit provient de la transformation d'une fleur après fécondation. Dans la fleur, il y avait le sexe mâle et le sexe femelle de la plante qui étaient présents. Alors on va s'intéresser au sexe femelle qui est constitué de petites structures qu'on appelle des carpelles. Et chez les glantiers, si on regarde à la loupe une de ces fleurs, on voit que les carpelles, une sorte de petite bouteille d'orangina assez courte, sont surmontées d'une petite touffe de poils. Donc l'extrémité du carpelle est velue déjà. La fleur va être fécondée par un insecte butineur qui transporte du pollen d'une autre fleur. Et cette fleur fécondée va se transformer en un fruit. Le carpelle va se transformer en un petit fruit. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les fruits de l'églantier, Noël.
Oui, on fait de la confiture avec le cynorhodon.
Voilà, le cynorhodon. Le cynorhodon, d'ailleurs, c'est un nom compliqué qui veut dire la rose des chiens, tout simplement. Et ça rappelle le nom de cette plante, l'églantier, qui est Rosa canina, le rosier des chiens. Donc, le cynorhodon, c'est une petite boule rouge sur laquelle on trouve les restes desséchés des étamines et des pétales. Et si je coupe ce fruit, je vais trouver à l'intérieur des petits grains. Alors en fait, les petits grains, ce sont eux les vrais fruits. Ah. Ce sont les carpelles qui se sont transformées en fruits après la fécondation. Et le fruit lui-même rouge, dont on fait des confitures, c'est le réceptacle de la fleur qui s'est transformé après fécondation.
Ce qu'on appelle le fruit, le gratte-cul, l'enveloppe,
voilà,
l'enveloppe rouge.
Exactement, voilà. On appelle ça le gratte-cul. Mmh. Cette enveloppe rouge, c'est le réceptacle de la fleur qui s'est gorgée de sucre et de vitamines. Ça. Par contre, les vrais fruits, quand on fait les confitures, on les enlève parce que c'est pas très bon, ça croque sous la dent. Et surtout, il y a toujours ces poils dont on parlait, qu'on avait trouvé sur le carpel. On les retrouve au sommet du petit fruit. Ces poils qui sont en fait des poils très urticants pour la peau. Et pour les muqueuses, donc pour la bouche, pour l'œsophage. Donc en général, il vaut mieux pas avaler ce type de structure.
Catherine Laine a écrit dans La peau d'un arbre, secrets et mystères des géants qui vous entourent. C'est passionnant, c'est édité chez Belin.
Thank you.
Liberté, c'était Yéli.
Les petits bateaux sur France Inter.
C'est plutôt Yéli Yéli, c'était Liberté. J'ai pas doublé le bon mot. Vous écoutez Les Petits Bateaux, effectivement, sur France Inter. Vous avez déjà entendu dans Les Petits Bateaux Emmanuel Beaucry, ingénieur météorologiste.
Bonjour, je m'appelle Yann. J'ai 6 ans. Je voudrais savoir pourquoi, plus qu'on monte en montagne, plus qu'on s'approche du soleil, plus qu'il fait froid. Merci.
Emmanuel Beaucry, vous avez compris sa question ?
J'ai compris. Alors, Liane, bonjour. C'est une très très bonne question parce que ça montre d'abord que tu as deux qualités de météo. La première, c'est d'observer et après de se poser des questions. Alors, c'est relativement simple. Ça revient à dire comment l'air se chauffe. Alors le soleil, dans la journée, nous envoie ses rayons. Les rayons vont traverser l'atmosphère et vont quasiment pas avoir d'influence sur l'atmosphère. Par contre, ça va taper sur le sol. Et sur le sol, la lumière va se transformer, va nous renvoyer ce que nous appelons des infrarouges. Ça va chauffer le sol. Ce sol, en se chauffant, va chauffer les premières couches de l'air. Et les premières couches de l'air vont chauffer les couches d'air un peu plus hautes, etc. Mais à chaque fois, on perd un peu de température. C'est pourquoi, en général, il fait beaucoup plus chaud en partie basse qu'en partie haute. Et quand on monte en montagne, on a le même problème. On se rapproche du soleil, on reçoit les rayons du soleil direct, mais ça chauffe un petit peu. Mais l'air dans son ensemble est plutôt frais, parce que c'est de l'air qui a été chauffé par les couches qui sont en dessous, et donc très loin en dessous.
En fait, si je comprends bien Emmanuel Beaucry, la Terre est plus chauffable que l'air.
Oui, alors les rayons du soleil, quand ils traversent l'atmosphère, vont donner un peu d'énergie à l'atmosphère, mais très peu. Et c'est essentiellement la transformation des rayons quand ils vont taper soit sur le sol, soit sur la mer, soit sur les objets ou les êtres vivants qui vont se transformer en infrarouge. Alors il y a une expérience qui est assez simple pour comprendre ça. En été, on voit souvent quand le ciel est très clair, la température redescend beaucoup en cours de nuit. Bah pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de nuages. Et les infrarouges qui viennent du sol, qui ont été chauffés dans la journée, partent vers l'espace. Par contre, s'il y a des nuages en cours de nuit, on va avoir une température qui va descendre beaucoup moins, parce que les infrarouges vont partir vers l'espace, mais ils vont rencontrer les nuages qui vont renvoyer les infrarouges vers le sol. Donc il fera un petit peu moins froid en cours de nuit.
Ouais, donc vraiment, tout vient du sol. Et les nuages, ça fait comme une couette, quoi.
Ça fait une couette.
On comprend effectivement très bien. Merci Emmanuel Beaucry, je vous l'ai déjà donné, mais je vous le redonne, le numéro de notre répondeur, 01 56 40 43 57.
Bonjour, je m'appelle Quentin, j'ai 9 ans, et je voudrais savoir, quand on est somnambule, est-ce que l'on est conscient ? Merci de me répondre, au revoir.
Bonsoir Quentin, c'est le professeur Isabelle Arnulf qui est chef du service des pathologies du sommeil dans un grand hôpital parisien, la Pitié-Salpêtrière, qui va te répondre. Quand on est somnambule, est-ce que l'on est conscient ? Demande Quentin.
Alors Quentin, quand on est somnambule, non, on n'est pas conscient, ou du moins à demi. En fait, la personne somnambule, si tu la regardes, si tu as un petit frère ou une petite sœur qui est somnambule, elle se lève, elle ouvre les yeux, elle est capable de marcher, de prendre la poignée de porte, de parler, voire même de te répondre. Donc on pourrait avoir l'impression qu'elle est réveillée. Mais en fait, si tu lui poses des questions un petit peu précises, elle va avoir du mal à te répondre ou répondre à côté. Autrement dit, elle a l'air à la fois éveillée et en même temps, elle a des comportements bizarres, comme si elle était endormie. Et quand on regarde et qu'on enregistre son cerveau pendant qu'elle fait son épisode de somnambulisme, on se rend compte que la moitié du cerveau est endormie et l'autre moitié est réveillée. Et donc, la moitié réveillée, c'est la partie en arrière de la tête. Ça lui permet d'ouvrir les yeux, de se lever, et puis de pouvoir prendre des objets, quelquefois de descendre un escalier.
Qu'est-ce que c'est la partie en arrière de la tête ?
La partie en arrière de la tête, c'est celle qui est au-dessus de notre nuque. truc et qu'on appelle, par exemple, la région visuelle, hein, qui reçoit les images, et puis aussi au centre du cerveau, tout ce qui nous permet de marcher, de réagir. Et cette partie-là, ça marche. Par contre, tout ce qui est la partie en avant, au-dessus du front, qu'on appelle le lobe frontal, c'est endormi. C'est encore dans des ondes de sommeil et c'est encore dans un rêve. Donc la plupart des somnambules ne se rappellent pas beaucoup de rêves, mais une partie s'en rappelle. Et quand on leur demande, eh bien c'est cohérent avec ce qu'ils sont en train de faire dans la chambre. Je te donne un exemple. Par exemple, il y a une jeune somnambule qui s'est mise à mettre tous ses draps contre le dessous de la porte. Et quand sa famille lui a demandé « Mais qu'est-ce que tu fais ?», elle a dit « Vous voyez bien qu'il y a une inondation. » Alors qu'il n'y avait pas d'inondation. Mais à la fois, dans son rêve, il y avait une inondation, et en même temps, avec la partie de son cerveau qui est réveillée, elle voyait quand même la porte. Donc elle voyait à la fois la porte qui est réelle, et puis l'eau qui était de son rêve. Donc tu vois, la personne somnambule, elle est dans un état à moitié. Alors ça veut dire qu'elle n'est pas responsable de ce qu'elle est en train de faire, ce qui est quand même important pour si elle fait des bêtises, mais en même temps ça veut dire qu'elle se met parfois en danger parce qu'elle croit à quelque chose d'autre qui n'est pas dans la pièce. Alors quand c'est un monstre, eh ben, elle va crier, mais si elle croit qu'il y a un feu, elle peut aller vers la fenêtre, l'ouvrir, et c'est dans ce cas-là que c'est dangereux et qu'il faut s'en occuper.
Isabelle Arnulf, les gens qui ne sont pas somnambules, j'imagine que vous avez aussi observé leur cerveau pendant qu'ils dormaient, les deux parties sont endormis ?
Oui, quand quelqu'un dort, normalement, tout son cerveau est endormi, en avant, en arrière, à droite et à gauche.
Ah oui, vous dites en avant, en arrière, à droite et à gauche, parce que c'est ça qui m'a interpellée, c'est votre séparation. Je pensais que le cerveau était séparé en deux, comme un peu comme une noix, à gauche et à droite, mais pas devant, derrière.
Alors, il est séparé à gauche et à droite comme une noix, mais il est aussi composé de plusieurs lobes. Le plus important en avant, celui qui est au-dessus de nos yeux, c'est le lobe frontal. Et puis ensuite, il y a un autre cerveau qui s'appelle temporal, et puis ensuite un autre cerveau qui s'appelle pariétal, et ensuite un autre cerveau qui s'appelle occipital. Tout ça d'avant en arrière. Donc on a quatre cerveaux d'avant en arrière.
Et voilà, c'est assez impressionnant quand même, hein, les somnambules. C'est bien d'en apprendre un peu plus sur ce phénomène quand même étrange. Thank you. c'est triste de quitter ce super tramp. Dans ma génération, on adorait ce disque. J'espère que vous l'aimez autant que nous l'avons aimé, vous les jeunes. Vous écoutez Les Petits Bateaux, l'émission où des enfants, petits et plus vieux, posent sur notre répondeur des questions auxquelles des savants répondent.
Je m'appelle Milo et je voudrais savoir comment font les sumos pour être aussi gros. Merci, au revoir.
Bonsoir Milo, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose, parfois sans oser la poser d'ailleurs, et tu t'es lancé, bravo. Nous vous la proposons cette question, Cécile Sakai, puisque vous enseignez le japonais, vous traduisez le japonais, vous écrivez sur la littérature japonaise. Milo s'interroge.
Oui, bonjour Milo. C'est vrai que les sumos sont impressionnants. On dit qu'ils pèsent en moyenne 150 kilos chacun.
Et comme j'aime bien la précision, chacun. Oui.
C'est-à-dire qu'en fait, les plus imposants d'entre eux vont jusqu'à 200 ou plus de 200 kilos. Alors, dans la vie ordinaire, ce sont des personnes que l'on qualifierait d'obèses, qui sont donc malades, qu'on essaierait de soigner. Or, en réalité, les sumos au Japon, ce sont de grands sportifs professionnels qui sont admirés par le public pour leur prestance et qui doivent se nourrir toujours plus pour gagner en masse et pour être plus puissants. En fait, cela fait partie de l'art de la lutte, puisque ce sont des lutteurs. Sumo signifie en caractère chinois « combattant ». Et il s'agit en fait d'un art de la lutte dont les origines sont très, très anciennes, attestées dès le 8e siècle donc au Japon, et censées remonter jusqu'à l'époque beaucoup plus ancienne encore des mythes, de la mythologie. Alors, il y a un lien très étroit entre donc cet art de la lutte et les cérémonies religieuses, notamment du shintoïsme. Alors, le shintoïsme, c'est une des religions principales du Japon. C'est la religion japonaise locale, avec de multiples divinités qui sont donc représentées dans les éléments de la nature, la montagne, la mer, les arbres, etc. Et ces luttes, donc de sumo, faisaient partie des rituels d'hommage aux dieux shintoïstes. D'ailleurs, si vous avez déjà vu peut-être dans des documentaires la grande salle donc de lutte, il y a une estrade centrale qui est entourée d'une corde tressée, et en fait, cela signifie que cet espace central est sacralisé, c'est l'espace des dieux.
Comme et donc, une espèce d'autel.
Voilà, exactement. Mais c'est aussi, et surtout, disons, au cours du XXe siècle, devenu un tournoi sportif, avec ses règles tout à fait spécifiques, des types de prises, des arbitres, des juges. Il y a également un calendrier de tournois, en fait essentiellement quatre par rapport aux saisons, avec des retransmissions systématiques à la télévision, comme lorsque l'on voit du foot hein, en France. Là, c'est le sumo au Japon. Ils font d'ailleurs parfois des tournées d'exhibition, et ils sont venus, en tous les cas des groupes, sont venus présenter des spectacles donc en France, deux ou trois fois déjà. Ils ont également des écoles, que l'on appelle des écuries, entre guillemets, qui préparent les plus jeunes à devenir des champions. Il y a un entraînement très dur de plusieurs heures tous les jours. Et il y a un objectif qui est l'augmentation de la masse musculaire corporelle.
Il faut faire le poids.
Voilà, exactement. Donc il faut manger beaucoup, c'est un objectif. Et le plat de résistance que les sumos mangent presque tous les jours, c'est un énorme ragoût calorique, très calorique, appelé chankonabe en japonais. Chankonabe, oui.
Chankonabe.
Délicieux. Pourquoi je le sais? Parce qu'on sert ce plat dans certains restaurants pour le grand public, si vous voulez. Donc on peut y goûter, mais c'est vraiment réservé principalement aux sumos. Composé essentiellement de viande, surtout du poulet, des poissons, des oignons, toutes sortes de légumes mélangés et assaisonnés, bien sûr, à la sauce de soja et au saké. Les sumos sont donc entraînés pour être aussi puissants que possible et leur poids fait partie de cet entraînement. Alors le petit bémol qu'il faut peut-être ajouter quand même, c'est que ils doivent arrêter assez jeune leur métier car leur santé ne permet pas de poursuivre dans ces conditions.
C'est un petit peu comme les petits rats de l'opéra qui sont sélectionnés parce qu'elles sont menues. J'imagine que les petits garçons sumo doivent quand même être sélectionnés parce qu'ils sont déjà certainement assez baraqués. Mais après, tout le monde ne devient pas danseuse étoile. Même si elles sont sélectionnées au départ parce qu'elles sont menues, il faut qu'elles soient douées pour la danse. Après, j'imagine que les sumos qui restent, qui deviennent champions, sont doués pour la lutte.
Donc... Absolument, vous avez tout à fait raison. Et c'est un exemple très intéressant parce que c'est à l'opposé, ouais. Mais tout à fait les mêmes contraintes hein, d'une certaine manière.
Merci Cécile Sakai. Je vous recommande, ni ne vous recommande pas d'ailleurs, puisque je ne l'ai pas lu, je vous signale la parution du dictionnaire amoureux du Japon qui est sorti chez Plon. Alors, à l'époque de la polémique sur les sapins de Noël, vrai ou faux, je rêve pour Noël d'une tour Eiffel déguisée en sapin de Noël avec des décos. Je suis sûre que c'est faisable, parce que j'ai vu dans un livre qu'on pouvait faire des choses extraordinaires avec la tour Eiffel. Il s'agit du pyjama de la tour Eiffel de Claude Almos, très bien illustré par Jeanne de Talente, et c'est chez Casterman. Alors, quand on sait que Claude Almos est psychanalyste, on se demande tout ce qu'elle a écrit entre les lignes de cette formidable histoire pour enfants. D'abord la tour Eiffel, qui en a marre d'être debout H24 et qui aimerait se reposer comme tout le monde. Assurée, être toujours là, bien droit, à la hauteur, et quelle hauteur, bien solide, être le monument de la capitale, mais ne jamais faire relâche une seconde, je me dis qu'il y a peut-être un message. Peut-être aussi que c'est moi qui me fais un film. Mais quand même, quand les chats disent « les humains ne comprennent jamais rien aux subtilités de l'existence », nous les chats, nous en avons tous fait l'expérience. À nouveau, j'entends Claude Almos, psychanalyste que nous connaissons bien à Radio France. Malgré ce que je viens de vous en lire, cette histoire est joyeuse, grâce aux chats justement, et aux hiboux. J'y ai vu aussi un éloge de la nuit. Cette tour Eiffel en pyjama vaut 16 euros, ça les vaut.